Cher Michael, d'abord, ça fait plaisir de te revoir,
Salut
même
Olivier.
si c'est à distance, salut, et ça fait plaisir de t'entendre à nouveau. Et bon, j'ai un grand regret, c'est que la conférence n'ait pas ouvert le séminaire, parce que ça m'aurait évité, dans l'un des séminaires qui ont précédé, ça m'aurait évité à moi de faire une intervention que. Et d'avoir écouté, je trouve stupide, donc c'est dommage. Mais je voudrais te dire deux choses. D'abord, je te remercie d'avoir traduit, si je t'ai bien compris, je crois cela, autonomie comme auto-indétermination. Je pense que, oui, ça dit précisément quelque chose de. Ça dit peut-être plus profondément ce que. Qui a été un aspect de ton débat avec Élodie sur la loi comme détermination, parce que ça nous oblige à penser que la condition de possibilité même de la détermination par la loi, c'est un principe éthique d'auto-indétermination. C'est-à-dire qu'à la base de la détermination, il y a de l'indétermination nécessaire. Et peut-être aussi de l'indifférenciation, qu'on regroupe finalement sous et de l'impératif catégorique comme impératif d'universaliser son jugement. Et si j'universalise mon jugement, je m'auto-indifférencie, je m'auto-indétermine, comme tu l'as parfaitement dit. Alors, merci pour ça, parce que ça fait penser. Au fond, là, je crois que l'impératif catégorique, c'est vraiment un impératif d'auto-indétermination. Non, merci. C'est pour ça que si je t'avais entendu préalablement, j'aurais évité mon intervention stupide de deux séminaires, je crois, pour avoir dit que ce n'est pas le conflit des facultés n'est pas un conflit épistémique, mais profondément politique. Et même lorsque nous
Olivier, excuse-moi, je t'ai mal entendu.
ah que pour avoir dit, excuse-moi.
Je t'en prie.
Merci, ça c'était très éclairant pour moi, que dans le conflit des facultés ne se joue pas une question épistémique, mais une question politique fondamentale. Et bon, je vais y revenir tout de suite. Même lorsque on veut le ramener à de simples oppositions disciplinaires, en fait, se joue toujours ce conflit. On n'y échappe pas, on n'y échappe jamais. On ne peut pas, comme tu l'as dit, l'apaiser. Mais la question qui va se poser, c'est de savoir s'il y a un tribunal pour arbitrer. Le tribunal n'apaise pas, hein, contrairement à ce que les gens pensent, mais il fait autre chose. Question, c'est en effet la question des conditions de ce conflit aussi. Autrement dit, la question, je dirais, d'une sorte de jus in bello. Est-ce qu'il y a encore un jus dans cette polémique ou politique des disciplines, donc, qui puisse discipliner les disciplines, en quelque sorte? Donc, c'est pour ça que ma question, c'est y a-t-il une constitution républicaine de l'espace académique? Et quelques déterminations, je ne sais pas. Et puis un tribunal, mais qui ne serait alors au sens de Kant que l'agent qui les paroles de cette loi. Il y a une constitution républicaine de l'espace académique. Ou bien sommes-nous dans la liberté sauvage? Il n'y a pas une différence, la liberté civile ou la liberté sauvage. Ensuite, oui, tout ce que j'ai un peu étudié l'histoire de la pensée juridique allemande. 19e, et on pourrait, écoutant maintenant, je me dirais, je pourrais réécrire ce livre comme une sorte d'histoire de conflit des facultés. Commencé par Savigny Hegel. C'est assez clair. Et avec, au fond, cette position que l'on voit toujours, mais que tu as rappelé, qu'aujourd'hui on appelle la question de l'autonomie du droit, l'autonomie de la discipline, de la science. Tout ce que tu as dit, c'est parfait. Ou ce qu'on a appelé l'isolyron du droit. Toute cette grande histoire qui traverse le 19e siècle. Ah bon, s'isoler, voilà, ça n'est pas nécessairement une position, pas nécessairement du neutralisme donc, à l'égard du conflit. C'est une position conflictuelle qui s'oppose et qui marque des corps. Qui veut dire que j'invite mes amis de l'Institut Michelet, mais ils le savent, que à prendre aussi ta présentation, ce très beau, très belle conférence, comme le moyen de réfléchir sur un thème qui nous est cher, à savoir la question du droit politique. On est toujours à la recherche de qu'entend-on par droit politique. Je pense que, je m'arrête là, ce que tu nous as dit nous pose certaines conditions de pensabilité. De ce que nous cherchons à déterminer comme droit politique. La faculté de droit, non pas au sens de la faculté institutionnelle, mais au sens, je ne vais pas dire de discipline, mais d'un savoir qui, de toute façon, à son sommet, est toujours contesté, contestable, à la fois par les autres disciplines, mais aussi par l'opinion générale. Il n'y a pas que. Hein, bon, il y a tout le monde parle du droit. On ne peut pas l'ignorer. Le droit n'échappe jamais aux politiques. Mais s'il y a du conflit, il faut aussi trouver les moyens de, non pas de résoudre définitivement les conflits, comme le dit mon ami Friedrich Müller, toujours, hein, c'est un moutonnement indéfini des commentaires, hein, ça c'est court, mais ça veut dire aussi un moutonnement indéfini des conflits. Hein, mais essayons de penser peut-être ce que serait la constitution républicaine dans de l'espace académique en général et dans lequel la science et de l'espace public, dans lequel le droit et la science du droit auraient des droits, c'est-à-dire auraient la paix, mais des droits. Les droits sont opposables en opposition. Voilà, c'est quelques remarques, mais merci beaucoup.
Merci à toi, Olivier, merci. Je suis très flatté par tes commentaires et presque touché par ce que tu dis sur. Le fait que tu pourrais réécrire ton bouquin comme Conflit des facultés, parce qu'il est évident que tout ce que je raconte là est le fruit de plusieurs années de réflexion dans lesquelles le dit bouquin a joué un rôle très important. Donc, je pense qu'en fait, la manière dont tu as exposé le devenir de la querelle des écoles historiques et philosophiques a beaucoup éclairé ma conception du conflit des facultés. Alors, moi, je n'ai pas assisté à ce que tu as dit il y a deux séances, donc je ne sais pas. Je dirais, pour moi, c'est vraiment un conflit à la fois épistémique et politique. Hein, c'est-à-dire, c'est pas l'un contre l'autre. C'est juste que la production de savoir nouveau de gouvernement est évidemment un enjeu politique en tant que tel, et que c'est pareil, quoi. Enfin, c'est on peut pas à la fois faire la révolution sans se donner les moyens de penser à neuf ce que c'est que de gouverner, quoi. C'est vraiment ce genre d'enjeu qui conduit Kant au conflit des facultés. Alors, je me concentre sur je laisse Denis répondre à la question du droit politique et de la vocation de l'Institut Villiers sur le sujet. Je ne me permettrai pas de. Mais je me concentre sur ce que tu dis sur est-ce qu'il y a une constitution républicaine de l'espace académique? Est-ce qu'il y a un ius in bello et un tribunal? Alors, la réponse est évidemment oui chez Kant. C'est-à-dire, c'est le parallélisme des formes dont je parlais. C'est-à-dire que c'est la faculté inférieure de philosophie qui décide des conflits qu'il oppose à qui légifère en cas de conflit purement théorique, bien sûr, il ne faut surtout pas effrayer le gouvernement, dans les conflits qu'il oppose aux facultés supérieures. Maintenant, je crois que ça, c'est la réponse du Kant douanier, si j'ose dire. C'est-à-dire, c'est la réponse du Kant qui cherche à penser une institution. Et puis, il y a le retour du refoulé. Et le retour du refoulé, c'est l'envie de politiser. Or, les modalités de la politisation, ça, c'est pas du Kant, hein, mais justement, c'est un peu ce qu'on disait dans l'échange avec Élodie. C'est-à-dire, les modalités de la politisation, elles ont bougé. Et c'est pas... c'est pas seulement l'usage de la raison pure et c'est pas seulement sous la forme de détermination qui se pose toujours en termes de loi, c'est parfois sous la forme de ce que Rancière appelle de la mésentente, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a des voix qui ne faisaient que du bruit et qui se mettent à vouloir faire à vouloir être entendues comme autre chose que du bruit. Et donc, je crois que bien sûr, il y a une constitution républicaine de l'espace académique, bien sûr, il y a un tribunal, mais bien sûr, il y a aussi toujours la très grande envie de politiser ce dispositif-là, de le bouleverser, de le subvertir, et c'est ça l'histoire de l'université depuis 2 siècles, et après tout, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'on vit dans cette tension, et moi je la trouve plutôt vivante, quoi, en fait. C'est-à-dire que je trouve qu'il faut faire part capable de s'auto-indéterminer parfois du fait de la critique externe dont il faut se souvenir qu'elle fait désormais partie de la structure. Ça vient de l'extérieur, souvent. Voilà. Et puis sinon, je te remercie pour ce que tu dis. Alors, l'auto-indétermination, je suis très heureux que tu sois d'accord avec ce que j'en dis. Bon, évidemment, c'est pas moi, hein, c'est Castoriadis. Je copie-colle pas, mais limite, quoi. C'est-à-dire, je suis très inspiré par Castoriadis quand je dis ça. Et Castoriadis, d'ailleurs, à la fois reconnaît à Kant le fait d'avoir compris ça et le retourne contre Kant, évidemment. Mais merci, Olivier, merci.